nous mettre ensemble à l'écoute de ta parole. Tu nous as sauvés, tu as fait de nous pas seulement une famille, mais une église, ton corps, celle qui est visible dans ce monde pour te représenter. Aussi, nous venons sur ce temps de prédication avec sérieux pour écouter ce que tu nous dis, ce que tu attends de nous. Alors Seigneur, parle-nous à travers le texte biblique qui sera étudié, parle-nous à travers ce que j'ai pu préparer devant toi, surtout avec ton esprit. Fais-nous marcher sur le chemin de la vérité. Je te prie au nom de Jésus. Amen. Je suis heureux d'être devant vous ce matin, heureux de vous voir aussi nombreux, de voir la salle pleine, de voir des nouveaux visages. La rentrée, ce n'est pas seulement des personnes qui reviennent, je vois des personnes en visite, peut-être des personnes qui nous rejoignent. Soyez tous les bienvenus. Ce matin, nous avons une prédication sur le sujet du baptême. Ce sujet, je l'ai choisi parce que en novembre est organisée une session de baptême et la préparation pour cette session démarre bientôt. Alors, c'est d'actualité. Nous sommes une église baptiste et une église baptiste laisse une grande place au baptême, donne une grande place au baptême dans notre façon de vivre l'église. Je vais vous lire ce qui est écrit dans notre confession de foi. Au sujet du baptême, nous croyons que, comme l'enseigne l'Écriture, le croyant est appelé à confesser publiquement sa foi par le baptême. Le baptême manifeste de manière visible la réalité de l'œuvre du salut de Dieu et de l'union du croyant à Jésus-Christ dans sa mort et sa résurrection. Nous croyons que, selon le Nouveau Testament, le baptême est donné par immersion au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et qu'il est normalement suivi par l'admission dans une église locale. J'ai un peu relu les livres de théologie que je pouvais avoir, les chapitres consacrés au baptême. J'ai entendu un certain nombre de prédications, de discussions sur le sujet, et je remarque souvent l'enseignement est centré sur certains points, sur les points de débat, sur le mode d'administration du baptême. Est-ce qu'on peut le faire par aspersion ? Est-ce qu'il faut le faire par immersion ? L'âge auquel on peut se faire baptiser, est-ce qu'on peut baptiser les petits-enfants ou est-ce qu'il est réservé aux croyants, à ceux qui ont suffisamment de maturité pour professer leur foi ? Débat aussi sur la nécessité. Si on est sauvé, si on a accepté Jésus-Christ, est-ce qu'il est nécessaire de se faire baptiser ? Alors, nous croyons, en tant qu'Église baptiste, que le baptême se fait par immersion. C'est un baptême de croyants qu'il est nécessaire, en réponse au commandement de Jésus et du Nouveau Testament, de se faire baptiser. Mais ce matin, j'aimerais élargir le propos et j'aimerais parler du sens du baptême. Quel est le sens du baptême ? Et pour ceci, j'aimerais lire quelques versets de l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 6. Romains, chapitre 6, je vais afficher le texte. Vous pouvez aussi suivre dans vos Bibles, sur vos smartphones si vous le souhaitez. Romains 6, à partir du verset 3, c'est la Bible du semeur que je lis. Ne savez-vous pas que nous qui avons été baptisés pour Jésus-Christ, c'est en relation avec sa mort que nous avons été baptisés ? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en relation avec sa mort, afin que, comme Christ a été ressuscité par la puissance glorieuse du Père, nous aussi, nous menions une vie nouvelle. Car si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. Comprenons donc que l'homme que nous étions autrefois a été crucifié avec Christ, afin que le péché, dans ce qui fait sa force, soit réduit à l'impuissance, et que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort a été déclaré juste, il n'a plus à répondre. Ce texte ne s'adresse pas à ceux qui ne sont pas baptisés et qui devraient l'être, ceux que Paul essayerait de convaincre de se faire baptiser. Il le dit, il s'adresse à nous qui avons été baptisés. Ce « nous » ne parle pas seulement de Paul et de ses collaborateurs, des serviteurs actifs, des implanteurs d'église, des apôtres. Ce n'est pas non plus un « vous » qui s'adresse à l'église de Rome. Voilà ce que vous devez faire, ce que vous devez entendre. Non, il s'agit de « nous tous ». Nous tous, jeunes ou vieux, dans la foi. C'est un rappel que nous devons tous. Et c'est bien un rappel. Je ne sais pas si vous avez remarqué, ne savez-vous pas, au début de ce que nous avons lu, ne savez-vous pas, Paul veut rappeler aux Romains quelque chose. Et il leur parle beaucoup de mort. Trois fois, j'ai compté. Il y a de la répétition. On n'a pas saisi qu'il y avait un message que Paul voulait faire passer au sujet de la mort, là, on a raté quelque chose. C'est en relation avec sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême. Nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne. Il parle de mort, mais il parle aussi de vie. Afin que nous menions une vie nouvelle, par une résurrection semblable. Donc, le rappel. Ne savez-vous pas, quand vous vous êtes fait baptiser, que vous êtes mort en Christ et que vous vivez avec lui? Le baptême, c'est un symbole de cette transformation. Souvenez-vous de ce qu'il signifie. Souvenez-vous, quand vous êtes plongé dans l'eau, que c'était votre choix de mourir à cette façon de vivre, et quand vous êtes ressorti, votre choix de commencer une vie nouvelle avec Jésus-Christ. Souvenez-vous. Et pour le souvenir, Paul s'appuie sur le baptême, sur un événement a lieu. Un jour, vous êtes passé par là. Un jour, vous êtes tenu debout devant l'assemblée pour montrer avec vos gestes, avec vos actes que vous vous engagiez, que vous étiez engagé pour Jésus-Christ. Et je rappelle, Paul le fait aux Romains, c'est parce qu'il a des implications. Ne savez-vous donc pas, comprenons donc. Un petit mot sur l'Épître aux Romains. L'Épître aux Romains, c'est l'Épître dans laquelle Paul explique sa théologie, explique ce que c'est qu'être chrétien. Il écrit à une église qu'il n'a jamais vue. Alors, d'habitude, quand il écrit aux autres églises, il les connaît. Il sait ce qu'elles vivent. Il connaît les problèmes et il parle directement des problèmes. Mais là, c'est une église qu'il ne connaît pas, donc il commence par expliquer l'évangile qu'il prêche. Il expose l'évangile plutôt que de répondre à des questions spécifiques de la communauté. Et ici, dans le passage que nous avons lu, il répond à une objection classique. alors qu'il vient d'expliquer que nous vivons par la grâce, que nous pouvons vivre avec Dieu comme un cadeau que Dieu nous fait, il répond à cette objection classique du coup. C'est gratuit, gracieux de vivre avec Dieu. Pourquoi est-ce que nous ne persisterions pas dans notre péché, dans la vie que nous avions, pour bénéficier toujours plus de ce cadeau? Si nous continuons à être loin de Dieu, alors son amour se fait encore plus sentir. Paul explique en se basant sur le baptême. Il invite à laisser tomber le péché. Il invite à cessons d'accepter les capitulations ponctuelles devant les sollicitations du mal. Il y a eu un mort. C'est l'homme que nous étions autrefois. Nous l'avons enseveli. Nous qui sommes baptisés, nous nous réclamons d'une vie nouvelle. C'est celle-là qu'il faut suivre. Et en fait, Paul rappelle là le cœur de l'Évangile. Le cœur de l'Évangile, c'est que Dieu a créé le monde bon. Ça nous est dit dans la Genèse, on a cette révélation de ce que Dieu a créé toutes choses et qu'il les a trouvées bonnes. Mais si elles étaient bonnes, elles ne le sont pas restées, parce que l'homme a perverti cette création par son péché. Je dis le péché et pas les. Je crois que le problème, ce n'était pas d'avoir cueilli un fruit et d'y avoir goûté. Le problème profond, c'est l'attitude. C'est que l'homme a décidé de faire selon son jugement au lieu de suivre le commandement de Dieu. Et cette attitude, elle se retrouve encore dans l'homme aujourd'hui. Toutes les générations l'ont ratifiée, l'ont reproduite. Je sais ce qui est bon pour moi. Je fais faire ce que je veux, ce que je crois être bon pour moi. Peu importe ce que dit Dieu, je fais ce que je veux. Voilà ce qu'est le péché. Et ce péché creuse entre Dieu et nous un fossé toujours plus profond. Une dette toujours plus grande. Et même si on se croit pas si mauvais que ça, même si on peut toujours trouver quelqu'un qui est pire que nous, chacun d'entre nous, nous prenons notre part, cette œuvre de péché. Mais Dieu est venu offrir la réconciliation. Jésus-Christ est venu sur la terre, il a réglé la dette, il l'a payé le prix fort, il l'a payé au prix de sa vie, comme nous l'a rappelé le repas que nous avons pris. Il a effacé l'ardoise. Mais plus encore, il est ressuscité et cette résurrection, cette vie nouvelle, elle offre un nouveau départ. Elle inaugure une vie nouvelle. Et il y a cette promesse dans la Bible que ceux qui ont accueilli Jésus, ceux qui ont cru en lui, tout cela, il a accordé le privilège de devenir enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Ceux qui croient en lui, ceux qui mettent leur confiance en lui, ils sont réconciliés avec Dieu. La dette est effacée. Le fossé comblés, ils peuvent marcher avec Dieu. Et Dieu ne s'arrête pas là. Il y a une quatrième étape. Il refera toutes choses bonnes. La création initiale était bonne, malgré la chute, à travers la réconciliation en Jésus-Christ. Dieu fera toutes choses bonnes. Jésus reviendra sur terre dans sa gloire. Le mal sera vaincu et ceux qui ont mis leur confiance en lui vivront éternellement. C'est là l'évangile, ce qu'expose la Bible. C'est là ce que nous sommes appelés à accepter par la foi, le chemin dans lequel nous sommes invités à rentrer pour vivre avec Jésus. Et du coup, l'homme est face à un choix. Est-ce que je reste sur le chemin du péché, le chemin naturel que je prends depuis ma naissance, ou est-ce que je me retourne, que je me convertis, que je change radicalement, comme dit l'Évangile, que je reconnais que je fais mauvaise route, que je choisis de suivre celle de Jésus, que je choisis cette nouvelle vie. C'est le choix de la conversion. C'est le choix que nous demande de faire Jésus-Christ et la Bible. Quel rapport avec le baptême ? Je rappelle, c'est le thème de la prédication. Quel rapport, finalement ? Je vais citer un manuel de théologie. Sur le baptême, voici ce qu'il dit. D'après l'apôtre Paul, le baptême est le signe de l'union du croyant avec Jésus-Christ. Il est le signe de son ensevelissement et de sa résurrection avec lui à une vie nouvelle. En effet, l'ensevelissement est, dans la vie sociale, une cérémonie qui confirme publiquement et définitivement l'ensevelissement de sa vie antérieure. Telle est la fonction du baptême. Le baptême est en quelque sorte la cérémonie d'ensevelissement du vieil homme. À travers le baptême, par ce geste, le croyant mime la réalité céleste de sa conversion. Alors, on peut se demander si c'est nécessaire, puisque la réalité céleste existe, pourquoi passer par là ? Jésus le commande. Le Nouveau Testament le commande. Je crois que ça devrait nous suffire. Mais j'ai relevé également trois raisons que j'aimerais partager avec vous. La première, c'est que le baptême, c'est l'officialisation de ma conversion. Ma conversion, le choix de marcher avec Jésus-Christ, c'est une décision intime que j'ai prise seul devant Jésus, dans la prière. Peut-être l'ai-je partagé avec quelques amis, mais ça fait partie de mon domaine personnel. Le baptême, il est public. Et on peut faire un parallèle avec le mariage. C'est une chose de se dire qu'on s'aime quand on est deux dans l'intimité. C'en est une autre de se le dire devant des témoins qu'on a invités, convoqués. Ça montre une autre forme de sérieux. Je crois que le baptême, c'est une façon de mettre en pratique cette parole de Jésus dans Matthieu au chapitre 10, qui dit « Celui qui se déclarera pour moi devant les hommes, je me déclarerai moi aussi pour lui devant mon Père Céleste. » Deuxième raison pour laquelle se faire baptiser, pour rentrer dans l'Église. À travers une communauté locale qui baptise, c'est l'Église qui reconnaît. Qui reconnaît, tu fais partie des nôtres, tu es des nôtres, tu fais partie de notre Église locale et aussi de l'Église universelle. Faire partie de l'Église, c'est aussi s'associer à des gens qui pourront nous rappeler à l'ordre si jamais nous dévions. Comme Paul le fait dans ce passage. Ne savez-vous pas, comprenons donc. des personnes qui pourront nous dire « Souviens-toi, tu as suivi de suivre Jésus. J'étais là quand tu l'as dit. » Alors, courage, persévère. Une troisième raison également pour se faire baptiser, c'est un témoignage. Je ne crois pas que ce soit la raison principale. Et j'ai réfléchi, je ne crois pas que ce soit quelque chose qui soit mentionné dans la Bible, cette dimension du témoignage du baptême. Témoignage auprès de ceux qui ne croient pas. Mais dans notre pays, dans nos pays laïcs, où la foi et l'incroyance coexistent, où on a des amis qui ne sont pas croyants, qui peuvent échanger. Le baptême, un événement officiel, c'est une occasion d'inviter et c'est une occasion de témoigner de mon engagement, de mon sérieux, mes amis. C'est une occasion de les interpeller. Voici donc trois raisons que je vois en plus du commandement du Nouveau Testament de se faire baptiser. Le baptême comme une officialisation de ma conversion. Le baptême comme une possibilité d'entrer dans l'Église et le baptême comme un témoignage. Que retenir de ce texte? Que retenir de cette prédication? J'aimerais diviser ma conclusion en deux parties. Si nous sommes baptisés, le texte de l'Épître aux Romains que nous avons lu nous concerne directement. Si nous sommes baptisés, alors il y a des implications sur notre vie. Nous devons être sérieux, conséquents avec le baptême que nous avons pris. Nous devons faire attention à la tentation du péché, à la tentation du mal qui nous guette et résister. Souvenons-nous de la signification du baptême. Souvenons-nous de son implication sur nos vies. Si vous n'êtes pas baptisé, alors j'aimerais profiter de cette prédication pour relayer l'invitation de l'Évangile. Jésus-Christ est venu nous réconcilier avec Dieu. Il nous offre une vie nouvelle. Si vous n'avez pas fait ce choix de mettre votre confiance en lui, d'accepter, de reconnaître que seul vous n'allez pas bien loin, mais que vous voulez le suivre, si vous voulez goûter cette vie nouvelle, pourquoi ne pas prendre cette décision aujourd'hui? Et si vous avez pris cette décision de mettre votre confiance en lui, pourquoi ne pas l'officialiser et vous faire baptiser? Je vous laisse avec cette question. Je vais prier. Seigneur, je crois qu'à travers le baptême, tu as voulu nous donner un signe visible de notre conversion, un signe fort qui nous permette de nous ancrer en toi. Je te remercie pour cela, pour la façon dont tu as pensé à nous, de ce que nous étions humains, oublieux, de ce que nous avions besoin de concret. Seigneur, j'aimerais te prier pour nous qui avons été baptisés. Aide-nous à nous souvenir de cette décision et à être conséquents. Par ton esprit, aide-nous à marcher encore et encore avec fidélité sur la route que tu as tracée pour nous. Seigneur, j'aimerais te prier que cette invitation que tu lances à tous d'être réconciliés, je prie qu'un nombre toujours plus grand la reçoive et que ton royaume soit de plus en plus visible pour ta gloire, Seigneur. Je prie au nom de Jésus. Amen.